Bonjour à tous, je suis Ophélie Meunier, je présente le journal Inattendu tous les samedis midi sur RTL. Bienvenue dans l'Interview Inattendue, le podcast. Dans chaque épisode, je vous propose une rencontre avec une personnalité. Quel que soit son talent, son univers, dans chaque entretien, mon invité se raconte de manière inattendue. Vous allez découvrir son histoire, son regard sur notre société, ses passions, ou encore ses goûts en musique ou en littérature. Aujourd'hui, je suis avec l'un des plus grands spécialistes français, écoutez bien, de l'optimisme. Alors, cher invité, qui êtes-vous? Vous avez une minute pour vous présenter.
Merci beaucoup, Ophélie. Et donc je suis Philippe Gabillet, je suis professeur de psychologie dans une grande école de management, et effectivement, je suis un grand optimiste. Mais, dans le fond, je suis un Occitan. Voyez, c'est-à-dire que ma famille maternelle est dans l'Hérault, à Faugères, et on y est depuis la révocation de l'édit de Nantes. Et donc j'ai les papiers de la maison, on est arrivé là-bas en 1685. Donc je suis un protestant, huguenot, je suis un enfant du soleil, je suis aussi un enfant du sud-ouest, parce que je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Bayonne. Et en fait, ma vie, dans le fond, ma vie professionnelle, elle est fondée sur deux échecs, hein, deux malentendus. Moi, il y avait deux choses qui m'intéressaient quand j'étais enfant, je voulais être chirurgien, ou éventuellement, je voulais être comédien. Le problème, c'est que j'étais tellement nul en maths que j'ai jamais pu faire médecine, donc là, l'affaire était réglée. Et alors, être comédien, quand on est dans un milieu bourgeois, bordelais, protestant, dans les années 70, mon père, qui est un homme que j'aimais beaucoup, m'a dit « Écoute, ne le prends pas mal, mais pas de baladin ni de saltimbanque dans la famille. Si tu veux faire du théâtre, tu vas commencer par faire Sciences Po et l'ENA, comme tout le monde. Et ensuite, on en discutera. » Donc, je suis devenu psychologue social, puisque je ne pouvais pas soigner les corps, je me suis employé à guérir les âmes. Et le théâtre, eh ben, ça a été les amphithéâtres dans lesquels je donnais cours, ça a été les palais des congrès, où depuis maintenant 30 ans, je fais des tas et des tas de conférences pour des grandes entreprises, des administrations, des ONG, etc. Et puis, dans le fond, voilà, la vie s'est passée comme ça. Si je voulais me définir, je dirais que, en tout bien, tout honneur, fondamentalement, je suis un nomade et un homme de passage. C'est-à-dire que je suis un passage dans le sens que j'ai bien accepté maintenant depuis longtemps. Moi, je suis que de passage dans la vie des gens. Ils me voient pendant quelques heures, quelques jours, si c'est mes étudiants, quelques minutes parfois, si c'est des conférences. Mais je fais que passer et j'essaye de les marquer pendant ce moment où je passe. Mais je suis aussi un homme de passage parce que je crois que depuis maintenant, j'ai né 63 bientôt, alors on va dire depuis 50 et quelques années, j'ai quand même aidé beaucoup de gens à passer, c'est-à-dire à faire le passage, à passer à l'étape d'après. Et puis j'ai trouvé que ça pouvait donner aussi un sens à la vie. Par ailleurs, moi je suis plutôt de bonne humeur, c'est Beaumarchais qui dans le Barbier de Séville fait dire à Figaro dans le Barbier de Séville, je préfère rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Ben moi je suis comme ça, je pense que justement parce que la vie fondamentalement est tragique, il n'y a pas d'alternative à la joie de vivre, quoi. On doit au moins ça à tous les autres. Et pour vous dire, et pour terminer par une pirouette, non pas coquine, mais qui sait, Casanova, à la fin de ses mémoires, dans l'histoire de ma vie, dit une phrase, moi, qui m'a toujours accompagné. Il termine ses centaines de pages de mémoires. Il va probablement mourir, là, dans les jours qui suivent. Et il termine en disant, en toute conséquence, rien ne pourra faire que je ne me sois pas amusé en cette vie.
Je vous retrouve bien là. Pour être parfaitement honnête, on s'est rencontrés il y a 3 ans pour une émission de télé. Et depuis, on ne s'était pas revus.
Tout à fait.
Et je dois dire que je suis vraiment ravie de vous retrouver, Philippe Gabillet. Je vais un tout petit peu compléter. En 2010, vous sortez un livre qui deviendra un ouvrage de référence, un best-seller, hein, comme on dit, éloge de l'optimisme quand les enthousiastes font bouger le monde. Vous l'avez dit, vous êtes professeur de psychologie et vous avez cofondé aussi la Ligue des optimistes, une association qui se donne pour mission de promouvoir l'optimisme et l'enthousiasme dans tous les domaines de la vie. Alors j'ai envie de dire, on a bien besoin de vous en ce moment. Et notre objectif va être, comme vous l'avez dit, de marquer les auditeurs, que votre passage marque ceux qui nous écoutent actuellement. Pour commencer, en une phrase, pour vous, Philippe Gabillet, 2020 aura été l'année de...
2020 aura été la découverte de ma capacité à faire le métier que je faisais avant à distance.
Intéressant. Encore une façon positive de voir les choses. Et 2021 sera l'année 2.
2021 sera le retour au meilleur du monde d'avant.
Je laisse une petite seconde pour digérer la phrase. Philippe Gavillier, vous vous doutez que vous allez devoir me dévoiler absolument tous vos secrets hein, pour rester positif. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Malgré la crise sanitaire, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, cette situation très pesante qui dure en plus. C'est quoi la clé ou allez, les deux, trois clés pour rester optimiste, là, maintenant, au moment où on se parle?
À l'instant où on se parle, la première clé, c'est une clé de bon sens qui est de se dire, de toute façon, chaque jour qui passe nous rapproche, qu'on le veuille ou non, de la fin. C'est mathématique. Hein. Bon. En revanche, on ne sait pas quand. Bon, ça, c'est ennuyeux. Mais par ailleurs, on est bien obligé, à l'exception de ceux qui, je dirais, qui souffrent vraiment au sens où qui sont très, très, très malades ou qui sont vraiment remis en question, mais on n'est pas dans une tragédie. Quoi. Une tragédie, c'est la peste. La peste du temps de Montaigne, c'est une maladie au moins qui était simple. Hein. Tu l'attrapais, tu mourais. Bon, c'est pas ça. On n'est pas là-dedans. On est dans une épreuve collective difficile. On est dans quelque chose qui nous met en difficulté. Et je veux dire, là, pour le coup, il y a une des définitions de l'optimisme qui est de dire être optimiste, c'est mettre sa réalité telle qu'elle est sous tension positive. C'est-à-dire que face à des choses difficiles, dures, se poser la question en ces termes, qu'est-ce que je ou on va bien pouvoir essayer d'en faire. Donc, pour moi, on est dans une logique d'apprentissage. Alors après, la question est de se dire, beaucoup de choses sont remises en question. Le rapport aux autres, la vie sociale dans ce qui est vraiment son cœur. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce que, en étant coincé chez moi ou en ne pouvant plus sortir, qu'est-ce que je peux continuer à apporter aux autres? Donc, d'abord à mes très proches, si j'ai la chance d'avoir des très proches, éventuellement aux autres à distance, mais comment continuer à créer de la valeur humaine en dehors de ce qu'étaient les codes anciens, quoi. Voilà, on se serre plus la main, on s'embrasse plus, on se parle de loin, il n'y a plus de resto, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de salle de sport pour l'instant, je dirais tôt ou tard, ça s'arrêtera bien évidemment. Comment continuer à vivre? Alors déjà, il y a une première chose, que d'ailleurs beaucoup de psychologues hein, sont d'accord là-dessus, il est absolument essentiel, quand on est perturbé dans ses rythmes, d'être très très rigoureux sur le respect du peu de rythme qui reste. C'est-à-dire que, et on l'a bien vu d'ailleurs dans le premier confinement, ça s'est un peu tassé après, l'horreur c'était de croire que ça y est, qu'on se lève super tard, on fait plus attention, on se rase plus pour les hommes.
Donc garder une rigueur dans le planning du quotidien.
Oui,
quoi.
Il faut se garder un minimum d'exigence. On dit oui mais on voit personne. Mais c'est un problème d'exigence par rapport à soi-même. C'est aussi bête que ça. Moi je me souviens de mon grand-père, même du jour où il a été à la retraite, il continuait à s'habiller le matin parce que le fait de s'habiller l'avait mis en énergie pendant toute sa vie et il continuait à bien s'habiller, voire même des fois se mettre en costume pour aller jouer au boule avec ses copains parce que il me dit mais si je ne suis pas habillé comme ça, je ne me sens pas bien. Donc voilà, il faut être d'une façon qu'il soit bien. Et puis je pense que aussi dans la période actuelle où les petits plaisirs parfois deviennent rares, on doit se poser cette question. Dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Pour les autres, bien évidemment, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Hein. Moi, je dis toujours, on est chacun d'entre nous la personne avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie. Donc, on a intérêt à avoir vis-à-vis de nous-mêmes des bonnes relations. Enfin, vous voyez, c'est aussi bête que ça. Se faire des petits... c'est ma copine Florence Savant-Schreiber qui parle des trois kiffs par jour. Mais elle a bien tout à fait raison. L'idée de se faire des trois bonheurs, les trois bonheurs du confinement, c'est quoi vos trois bonheurs du confinement? Tous les jours, se faire un petit truc pour soi, qui se fait plaisir à soi. Appeler quelqu'un qu'on n'a peut-être pas appelé depuis longtemps, juste pour dire salut, comment tu vas, etc. Et puis pourquoi ne pas faire quelque chose de plus global? C'est fou tout ce qu'il y a sur Internet, hein, les tutos, il y a des associations qui ont besoin d'un coup de main, parfois c'est 5 euros, 10 euros. Et si on se dit, tiens, tous les jours, je me fais un mini budget, je vais faire un petit truc pour quelqu'un d'autre que moi, qui d'ailleurs ne met rien, mais juste voilà, ça donne du sens à mon vécu, quoi, à mon quotidien.
Vous comprenez quand même qu'il y en a certains qui disent ce discours, faut voir le positif dans tout, malgré tout, il est agaçant. Ce notamment pour qu'il y a eu un drame, la perte d'un proche ou la perte d'un emploi. Et qu'il n'y arrive pas en fait, tout simplement.
De toute façon, le positif, il faut être clair, je suis d'accord avec ça, c'est agaçant. Positiver, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans, ça n'a pas de sens.
Je note quand même, positif c'est agaçant.
Le positif c'est agaçant, surtout quand on est confronté. Mais moi, le positif c'est pas trop mon truc. L'optimisme, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est l'optimisation de la réalité. Donc j'ai une réalité adverse, difficile, voire de la fatalité, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Mais attention, rien ne dit, mais personne n'a jamais dit que c'était d'abord facile tout le temps. Il faut bien admettre que quand on est confronté à la difficulté, la souffrance, la douleur, etc., il y a un temps incompressible, non négociables pour le choc, pour le deuil, pour la cicatrisation. Tant qu'on est là-dedans, c'est pas la peine d'essayer de dire aux gens « Mais si, secoue-toi, tu verras, ça va s'arranger. »
Ah bon, vaut mieux pas faire ça alors ?
Mais non, 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 non.
Parce qu'on se dit qu'on aide en fait.
Non, on aide en écoutant. On aide en écoutant et surtout en se mettant à l'écoute de l'autre et de ses affects. Parce que dans le fond, on se rend bien compte, si même notre compassion ou notre tentative d'essayer de positiver crée une tension, il faut tout de suite
prendre du recul.
On ne peut pas. L'idée selon laquelle on peut se mettre à la place de l'autre, c'est l'un des grands fantasmes, vous savez, de la psychothérapie ou même de la psychologie de bistrot.
Voilà, il y a des gens très, très empathiques quand même.
Oui, mais quand quelqu'un vient de...
S'imaginer ce que quelqu'un peut ressentir.
Quelqu'un vient d'apprendre qu'il a, vous voyez, une maladie dégénérative grave. Il vient de perdre un enfant, etc. Et on lui dit, mais monsieur, je me mets à ta place. Mais oui. ça rend fou.
Rien de dire, ça.
Non, oui. Tu ne peux pas te mettre à ma place, même si tu m'aimes beaucoup. Donc, face à l'adversité, de toute façon, d'abord, l'adversité ne s'oppose pas à l'optimisme, l'adversité est une réalité de la vie.
Donc on peut être optimiste mais râler un bon coup.
Ah mais c'est même.
Vous râlez de temps en temps.
Ah oui, absolument. Il le faut. Ah non mais moi je râle. Ah ouais. Ce n'est pas, vous voyez, c'est pas une naïveté, c'est pas simplement l'optimiste vous dit, allez, si je suis mis un peu trop sous tension, je fais 2-3 paris dans ma vie en gros. Hein. Je fais le pari que au bout du compte, ce qui fait nos forces, nos qualités, etc. sur le long terme. Est plus à même de faire la différence dans nos vies que ce qui fait nos faiblesses. Donc c'est un pari. Bon, je parie que tant qu'à faire, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent s'améliorer que de choses qui vont dégénérer. Mais c'est un pari. Mmh. Et surtout, je fais le pari que si on veut changer les choses, on a intérêt à agir, parce que si on n'agit pas, il ne se passera rien. Hein. Moi, un copain me disait récemment, il me dit, tu sais, quand Shakespeare écrit Hamlet, il fait dire à Hamlet, à un moment donné, la tirade célèbre, « To be or not to be », être ou ne pas être. Il dit, mais Shakespeare revient en 2021, il réécrit Hamlet en 2021, Hamlet, il dira pas ça. Hamlet, en 2021, il dira « to do or not to be », c'est-à-dire faire des choses ou rien devenir. Donc, voilà. Donc, un optimiste est quelqu'un qui va faire des paris, et sachant que la vie est telle que les paris, parfois, on peut les perdre. Mais est-ce que parce qu'on risque de perdre un pari, il faut pas le faire ? Mais dans ce cas, on fait rien. On ne crée pas de famille, on se marie pas, on lance pas une entreprise, on ne change pas d'orientation professionnelle. Enfin, on fait rien du tout. Simplement, il faut avoir de la force intérieure pour le faire. Et parfois, la douleur, la souffrance et l'adversité vont temporairement nous drainer l'énergie vitale. Il faut admettre aussi, ce que nos ancêtres savaient bien, que parfois, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est de tenir coûte que coûte. Et en espérant qu'on peut avoir parfois aussi un tiers. Un tiers, ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un professionnel aussi, qui va simplement nous aider à passer ce cap. Mais cette idée selon laquelle il faudrait qu'on soit toujours, par rapport au drame de la vie, les plus heureux possibles, les plus positifs possibles, etc., ce n'est pas sérieux. Le monde, la vie n'est pas comme ça.
Quelle musique écoute un optimiste comme vous ?
Ah ben un optimiste.
Côté pop, par exemple.
Moi, en pop, j'ai tout ce qui est les Bee Gees, Queen, Elton John. Moi, tout ce qui est où ça pulse. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que moi, en pop, j'aime tout ce qui pulse, alors qu'en classique, j'aime tout ce qui plombe.
Alors, on écoute d'abord un peu de pop.
Allez, un peu de pop.
Elton John, I'm Still Standing. Je vous remercie parce que j'adore aussi cette chanson et ce clip mythique, hein, tourné sur la croisette à Cannes.
La croisette, c'est un formidable clip et qui, je trouve, est tout à fait... Bon, lui, il est dans un contexte très particulier, ce clip I'm Still Standing, historiquement, dans la vie d'Elton John. Mais ce qu'il dit, indépendamment du contexte, est intéressant parce qu'au bout du compte, il faudrait qu'on soit tous capables, dans quelques mois, de chanter I'm Still Standing.
Voilà. Philippe Gavillier, vous aimez aussi beaucoup la musique classique, vous l'avez dit. On écoute d'abord un extrait du concerto pour violon de Jean Sibelius. Vous avez choisi également le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov.
« Le classique, c'est fait partie de ce que j'aime beaucoup, mais comme j'aime à côté, effectivement, on l'a vu, la pop, la chanson à texte française, etc., j'essaie de trouver... L'important, c'est que j'ai de la musique. J'aurais beaucoup de mal à vivre sans musique autour de moi, quelle qu'elle soit, parce que j'aime beaucoup de choses. J'aime pas tout, mais j'aime beaucoup de choses quand même.
Comment votre optimisme rayonne sur votre femme et vos enfants ?
Je pense
qu'ils se sentent un peu obligés ?
Non, ils se sentent pas obligés. Mes filles, moi j'ai deux filles, donc j'ai deux filles qui maintenant ont 21 et 23 ans, et elles sont quand même de bonne nature, puis elles me connaissent. Bon. Et mon épouse, on se connaît depuis 1978. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même c'est quand même une histoire de 42 ans, cette affaire-là. Et elle, en revanche, elle dira, bien évidemment, je pense qu'elle préfère vivre avec quelqu'un qui est optimiste que quelqu'un qui ferait tout le temps la tête. Mais elle dira, ce que je suis prêt à comprendre, que mon optimisme au quotidien par rapport à ce qui est la vie quotidienne peut avoir quelque chose de fatigant, voire d'irritant. Parce que c'est vrai que naturellement, je dis, écoute, ça va s'arranger, on peut en faire une histoire, tout ça n'est pas
grave. Oh, il m'énerve avec ses mots positifs, là.
Et donc, effectivement, je suis énervant. Voilà.
Quel est le livre que vous me conseilleriez de lire, ou deux ?
Moi, je pense que dans la situation actuelle, je pense qu'il faut lire Sylvain Tesson. L'énergie vagabonde de Sylvain Tesson, ça, je trouve que c'est quelque chose, parce que ce sont des livres qui oxygènent.
Toute la
littérature de voyage, d'une façon générale. Je pense que la littérature de voyage est vraiment une littérature qui est thérapeutique, je pense. Hein, en tout cas, pour beaucoup de gens. Et, alors, il sort en permanence des tas de romans. Moi, j'ai été très frappé dans ma bibliothèque. J'ai retrouvé un roman qui est sorti il y a à peu près 8 ans, qui a été par une romancière qui s'appelle Christelle Diel. Et le livre s'appelle Enola Game. Ça fait référence à Enola Gay, qui était la bombe atomique. Et Enola Game est une histoire de confinement. C'est l'histoire d'une femme et de sa fille qui sont enfermées chez elles suite à quelque chose qu'on ignorera tout. On ne sait pas pourquoi. Ça pourrait être une pandémie, une catastrophe nucléaire. Elles sont coincées chez elles et... Elle continue effectivement à vivre et la maman va faire en sorte d'essayer de continuer à vivre, à faire vivre sa fille de façon la plus positive possible dans un environnement de total confinement. Et en fait, ça répond à une question qui pour moi est toujours assez perturbante, c'est que nous reste-t-il quand il reste rien ? Et voilà, donc moi je pense que, alors c'est un peu plus plombant effectivement que l'énergie vagabonde de Sylvain Tesson, mais voilà, je pense, littérature de voyage, puis quelques romans de huis clos sont, je pense, des choses intéressantes. Des romans d'ailleurs ou des séries télé ou peu importe.
Vous regardez des séries ?
Ah, moi j'adore ça.
C'est vrai ? De toute
façon, moi je suis, comment vous dire, j'aime, ma passion dans la vie, c'est vraiment le romanesque, sous toutes ses formes. Donc, même des choses absolument idiotes, paraît-il, de télé-réalité, etc., j'aime regarder de la télé-réalité. Mais pas tout seul. Je m'ennuie à mourir. J'ai mes deux filles avec moi. On regarde de la télé-réalité, mais on s'éclate. Bon,
vous en créez un moment de complicité avec vos enfants.
Bon,
quoi.
J'adore les westerns, j'adore tout ça. Et vous voyez, des séries, je pense à ça, parce que ça fait partie des choses. Tant qu'on est confiné, on fait des choses ensemble. Mes filles m'ont fait découvrir la série Our Planet. Mmh. D'Attenborough. C'est merveilleux. Alors Dieu sait que moi, alors pour le coup, comme j'aime le romanesque, honnêtement, le documentaire, hein, le documentaire animalier, le documentaire géographique, mais alors, même pas en rêve. Et là, je suis le premier à dire, allez, le prochain, on le voit quand ? Mais voilà, moi, mon truc dans la vie, c'est The Crown, vous voyez, les 5 saisons, c'est Peaky Blinders, toutes les saisons, voilà, c'est... Ou des choses, tiens, pour le romanesque, quelque chose que je conseille, tellement beaucoup de gens l'ont vu. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir Le Jeu de la Dame.
Ah, c'est formidable.
Surtout que Le Jeu de la Dame...
C'est ma série de 2020.
Oui, je ne sais pas, moi, jouer aux échecs. J'y connais rien. Ça ne m'intéresse pas. Mais ils transforment ça en un thriller. Mais c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire, bien sûr.
C'est vrai que c'est génial. Et côté musique, vous aimez aussi ça, Philippe Gabillier.
Dis la vie, sois bien foutu, elle a l'air d'une môme cossue. Mais tombe aux poules, des fois qu'on tourne la boule à celui qui compte les coups et qui que quoi ton coup. D'ailleurs, nous, on s'en fout, on vit.
La vie de Léo Ferré. Le message de cette chanson, c'est finalement être vivant, c'est tout ce qui compte, le reste, s'en fout.
Et
c'est ça qu'il faut retenir.
Moi, c'est ça que je trouve que, oui, je pense que la vie comme elle est courte, hein, quand je plombais l'ambiance, souvent, je dis, vous savez, imaginez que vous viviez 90 ans en pleine forme, mais vraiment en pleine forme, vous aurez vécu 33 000 jours. Donc c'est bien, hein, ça fait même 788 000 heures. C'est chouette, mais juste, il y a un début, un milieu et une fin. Et c'est vrai que tous les philosophes du tragique vous disent, de toute façon, voilà, alors si on est porté par une foi religieuse, etc., mais moi, ce n'est pas du tout mon cas. Donc je dis, voilà, ben, un jour, ça finira, mais ça finira pour tous les gens qui sont autour de moi, et même tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, un jour, je dirais, repartira au sable du désert. Donc, la vie est tragique, mais c'est la raison pour laquelle, je dirais, la seule alternative, c'est la joie le plus possible et se réjouir de tout ce qu'il y a et le donner aux autres. Parce qu'en dehors de ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon. Alors cela dit, Léo Ferré, parfois il était sur ce plan. Dans la première partie de sa carrière, il était comme ça. La joie de vivre était quand même assez présente. Et puis après, il est devenu beaucoup plus sombre. Hein, voilà. Mais c'est pareil. Moi, quand on est dans la joie, moi, les chanteurs sombres, mes copains ne comprennent pas pourquoi est-ce que j'adore Barbara, j'adore Léo Ferré, tous les plombants, en fait, hein, Gérard Manset, enfin, ben, tous ceux qui vous plombent le moral. Oui, mais justement, moi, je trouve ça énergisant. Je trouve ça énergisant.
À la fin de l'interview inattendue, je demande à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Si vous avez une demande à faire passer ou envie de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est le moment. Alors Philippe Gabillier, à qui avez-vous choisi de laisser un message?
Il y a un poème de Baudelaire que j'aime beaucoup dans les poèmes en prose et que je laisse sur le répondeur à mon ami I ou à mon ami E, et qui est le suivant. Mon cher ami, ma chère amie, il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise nos épaules et nous penche vers la terre, il faut nous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? D'amour? Ou de vertu, à ta guise? Mais surtout, enivre-toi. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de ta chambre, tu te réveilles, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demande au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demande quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge te répondront, il est l'heure de t'enivrer. Pour n'être pas l'esclave martyrisé du temps, enivre-toi. Enivre-toi sans cesse, de vin, de poésie, d'amour ou de vertu. À ta guise, mon ami.
Je dois dire que je perds rarement mon sourire, mais là, j'ai un très grand sourire en vous ayant devant moi et en ayant passé ces quelques minutes avec vous. Merci.
Eh bien, merci infiniment.
Philippe Gabillier, d'avoir partagé votre regard sur notre société et surtout votre optimisme. Auteur du best-seller Éloge de l'optimisme et votre dernier livre, L'art de changer de vie en 5 leçons, aux éditions Saint-Simon. C'était un épisode de notre podcast original L'Interview Inattendue, à la réalisation Pascal Choisy et à la programmation Marie-Caroline Mandon. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur les applications RTL et AudioNow, ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast favorites.